6h03, mercredi 24 avril. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, c'est un matin de pluie, ce qui veut dire que ça vient compliquer encore les opérations dans les secteurs inondés et ça augmente le niveau de stress et ça va être comme ça, je pense, pour les prochains jours. Je vous donne tout de suite les détails météo. Donc, de la pluie aujourd'hui, maximum prévu autour de 9 degrés. Des vents de 30 à 50 km heure. La bruine devrait cesser en soirée. Ça demeure nuageux par la suite. Et demain, jeudi, il y a une pause, c'est-à-dire soleil et nuage, avec un maximum de 12. Mais vendredi, on prévoit de bonnes quantités de pluie. Il va pleuvoir toute la journée. Encore là, 12 degrés durant la soirée. Et pour samedi, des averses qui sont prévues, du temps venteux, ce qui n'aide pas, avec un maximum de 5 degrés. Et finalement, dimanche, soleil, nuages, faible risque d'averse, maximum 8. Le retour du soleil est vraiment prévu pour le début de la semaine prochaine. Donc, 5 journées avec, disons, une préoccupation particulière pour vendredi et samedi, avec des fortes pluies et aussi du temps venteux. On va aller sur le terrain, évidemment, parce que on le voit, il y a encore pas mal de pluie à venir. D'abord, il y a Annie Guillemette qui est à Rigaud. Et Annie, on a déjà augmenté le nombre de personnes évacuées.
Oui, il y a une quarantaine de familles qui ont décidé d'évacuer hier. Donc, une douzaine ont été prises en charge par la Croix-Rouge. Il y en a une trentaine qui ont été hébergées par des proches. Donc, le compte ici à Rigaud-Paul, à peu près 150 familles qui ont décidé d'évacuer. Mais il y a encore énormément de gens qui sont dans leur maison présentement. Des fois, il y a des problèmes d'électricité, de plomberie, d'eau potable, de fosses septiques, bien sûr. Mais il y en a quand même qui font le choix de demeurer chez eux. Donc, l'opération de recensement se poursuit. Il y a des policiers, des pompiers et des agents aussi, des services sociaux qui sillonnent les rues pour vérifier qui est à la maison, qui ne l'est pas, bien sûr, pour préparer d'éventuelles évacuations d'urgence. Sauf qu'il n'y a rien de simple lorsque des maisons sont inondées et sont même isolées. Il y en a une soixantaine de maisons ici qu'on n'a pas d'accès. Là, on ne peut pas y aller en voiture, on ne peut pas y aller à pied. Donc, ça complique énormément les choses, même pour les autorités. On a demandé donc le concours de l'armée canadienne, de la marine canadienne, pour être plus précise. Et donc, ce sont eux qui, à l'aide de Zodiac, vont transporter les gens pour aller faire le recensement, pour apporter de l'aide. On transporte aussi des biens de première nécessité parfois, justement là, pour aider les gens qui sont toujours dans leur résidence. Cette opération-là, donc, se poursuit encore aujourd'hui. Avec les chiffres qu'on avait hier, là, il y a environ 200 résidences qui sont inondées ici à Rigaud et donc une soixantaine qui sont carrément inaccessibles. Quant à la rivière des Outaouais, ben, vous l'avez dit, les précipitations sont attendues. Pour ici, la météo fait état de 15 à 35 mm au cours des prochains jours. Donc, pour l'instant, le débit et le niveau sont stables, sauf qu'on prévoit des hausses drastiques au cours des prochains jours. On va continuer à suivre ça pour vous.
Merci beaucoup, Annie. On se reparle un peu plus tard. Stéphane Boucher, lui, est à l'entrée du pont de la Petite-Île Mercier à l'Île-Bizarre. Stéphane, ça se passe comment de ce côté-là?
On est au beau fixe ici. Si on regarde le pont de l'île Mercier, je ne sais pas si vous avez vu, Paul, des images sur des postes d'information continue, mais l'eau passe carrément par-dessus le pont. En fait, on voit pas du tout le tablier du pont. Donc, la situation en général à Montréal, pas d'évacuation. Seule une trentaine de résidences isolées par l'eau sur la petite île Mercier. Les résidences isolées le sont toutes sur la petite île Mercier. Le seul pont qui relie cette île à l'île Bigros, où je me trouve actuellement, a été fermé lundi. On dit que les occupants de ces 30 résidences sont coupés du reste du monde. On les dit bien équipés parce que ils ont appris des inondations de 2017. Ils avaient alors été passablement éprouvés. Donc, à Montréal, il y a également des débordements à Sainte-Geneviève, dans Hunsic, Cartierville, dans Pierrefonds, Roxborough, et sur l'île Bizarre, bien sûr. Ici, pas de maisons inondées. Les digues qu'on a construites à la hâte, donc ont toutes tenu le coup. Hier encore, on consolidait les ouvrages et en fin de journée, on disait qu'on était à peu près à 80% de les avoir complétés. Donc, autour de l'île Bizarre actuellement, il y a deux patrouilles nautiques en permanence. Bon, l'une du SPVM, la police de Montréal, l'autre du CIM. Donc, on patrouille autour de l'île Bizarre, principalement autour de l'île Mercier, parce que ces patrouilles sont surtout présentes pour assurer la sécurité de la trentaine de résidents de l'île Mercier. On a fait preuve de beaucoup d'imagination ici, Paul, lundi. On a pris deux souffleuses pour retirer l'eau des rues de l'île Bizarre et semble-t-il que ça a fonctionné. Donc, pas d'évacuation à Montréal. Les digues font le travail, mais faut pas baisser les bras. On en parle depuis ce matin. La pluie ici, actuellement, ça vient de se calmer, mais il y a 5 minutes environ, c'était une pluie assez soutenue. La neige va continuer à fondre, évidemment, ça va gonfler les bassins versants. Un mot à Laval, Paul, 200 résidences isolées jusqu'à maintenant, 42 sont inondées. Il y a 8 familles qui ont demandé l'aide de la Croix-Rouge, secteur le plus touché, Laval-Ouest, mais également Fabreville, Sainte-Rose et Sainte-Dorothée.
Merci beaucoup, Stéphane Boucher. Donc, vous aussi, on vous reparle un peu plus tard. Si je regarde le portrait un peu global, si je me fie aux nombreux courriels que je reçois de gens qui sont sinistrés, c'est sûr que les propos du premier ministre Legault ont suscité la réflexion. Et il y a des gens qui sont dans des secteurs. Puis tantôt, on va parler à un expert là, pour voir comment la carte des zones inondables a évolué depuis les dernières années puis quelles sont les projections qu'on peut faire. Mais les gens là sont sérieux dans leur pensée. Est-ce que j'ai encore envie de vivre ça? Puis est-ce que j'ai encore le goût d'être là en le printemps prochain ou dans 2 ans pour recommencer à voir l'eau monter dans le sous-sol, voir ma maison être touchée une fois de plus, puis avec tout ce qui suit, là, c'est-à-dire les travaux, puis, tu sais, c'est dégueulasse, une inondation, on le sait tous, là. Puis il y a des gens qui vont prendre très au sérieux, je pense, la proposition du gouvernement de quitter, peut-être. Là, il faut voir les compensations, puis il n'y a pas, comme on dit, de plan du mur à mur, là, mais il y a une intention, en tout cas, de sortir les gens, les convaincre à quitter ces territoires inondés. D'autre part, ce matin, parlons un peu de santé, parce qu'il y a quelques nouvelles qui se recoupent pas mal. D'abord, si je vous dis ce matin, suite à l'article de la presse samedi, que la ministre Marguerite Blais a demandé au protecteur du citoyen d'intervenir concernant les gens qui sont placés par le réseau public dans des résidences privées. Alors, 212 résidences privées pour aînés, et il y a des centaines de personnes qui se retrouvent là. Et on a découvert donc par ce reportage, notamment le cas de la résidence Bellerive, où on plaçait les gens dans des endroits qui n'étaient pas le top, là, puis qui n'étaient pas en mesure d'assurer des services de qualité. Et c'est une pratique qui existe depuis longtemps, là. C'est-à-dire que pour sortir les gens des hôpitaux, puis faire de la place, il faut les envoyer quelque part. Puis la réponse immédiate, facile, c'est d'acheter des places dans des résidences privées. Puis comme dans n'importe quelle situation, il y a des bons endroits, puis il y en a des moins bons. Alors là, on va demander une enquête. L'autre nouvelle, ça concerne, c'est à Radio-Canada, ça concerne les investissements dans la réfection du réseau de la santé, des bâtiments, les hôpitaux. Ça coûte 300 millions de dollars, et malgré les investissements, ça continue de péricliter. Le nombre de bâtiments en mauvais état ou très mauvais état a augmenté, même si on dépense de l'argent, là, même si on répare, ça se dégrade encore plus vite. Et là, vous voyez des exemples d'endroits, l'Institut Pinel, même l'hôpital Sainte-Justine, où on a des problèmes sérieux dans certains départements. On parle de, je vous donne un exemple, de laboratoires qui auraient été pratiquement, en fait, qui sont des endroits vétustes, que ça n'a pas de bon sens de faire travailler là. Puis quand vous allez dans le secteur de la santé mentale, comme dit quelqu'un, si ça va pas puis tu te ramasses à Louis H. Lafontaine, c'est rien pour te remonter le moral, là. C'est rien pour aider à te retrouver dans un environnement positif. Alors, c'est pas nouveau, on le sait, ça coûte de l'argent, on a laissé aller pendant des années, puis là, on tente du rattrapage. Et le troisième volet, hier matin, on parlait de ce projet pilote en chirurgie, et qui a permis d'abord d'opérer plus de patients dans 3 cliniques, donc de décongestionner les listes et d'amener les gens à avoir donc une chirurgie plus vite. Ça ne coûte pas une scène aux patients. Le médecin est payé par le régime public et ça se passe dans des cliniques où, semble-t-il, la productivité est assez bonne et supérieure. Pour toutes sortes de raisons, là. T'sais, on ne fera pas le débat privé-public dans un cas comme ça. On sait juste que la conclusion, on opérait plus de monde, donc il y a plus de patients satisfaits, puis j'ai reçu pas mal de courriels de gens qui ont trouvé que l'expérience valait la peine, chirurgie d'un jour. Et là, la ministre doit décider ce qu'elle fait avec ça. Elle prolonge, elle confirme, et là, je m'y attendais un peu Voilà que la Fédération des médecins spécialistes du Québec sort de l'ombre. Et la présidente, Mme Francoeur, nous dit « Sommes-nous en train de créer un monstre? » Là, je me dis « Quel monstre? Quoi le problème? » Là, elle nous dit « Vous savez, à force de faire ça, on va décourager les gens de travailler dans le réseau public. Et ça veut dire qu'ils vont aller travailler dans des cliniques parce qu'ils ne sont pas appelés à travailler les fins de semaine, pas à travailler de nuit. Quoi le problème, là? » Ah oui, puis là, elle donne l'exemple de l'échographie. Elle dit, quand on a rendu ça gratis, ça a augmenté considérablement. Là, les gens se sont mis à avoir des ordonnances pour des échographies. Les réseaux estimaient avoir à faire 150 000 échographies de plus. Il y en a maintenant 450 000. Il y a toujours bien quelqu'un qui prescrit l'échographie en passant. Tu n'arrives pas, toi, dans une clinique en disant, donnez-moi une échographie. Ça prend une ordonnance. Alors, les médecins peuvent peut-être faire un auto-examen. Mais est-ce qu'elle pense sérieusement que si le projet pilote est arrêté, que les infirmières vont courir vers les centres hospitaliers? Je pense pas. Est-ce qu'on va régler le problème de pénurie d'infirmières, de temps supplémentaire? Non. Hier, on a eu des échanges avec le docteur Pelloux en France, où ce système-là existe. Et il nous a expliqué en quelques mots que ça fonctionnait très bien. Et que les chirurgies mineures allaient dans des cliniques, puis qu'on concentrait les efforts sur les cas plus lourds dans les hôpitaux spécialisés. Et c'est normal. Ça évite, entre autres, de retourner le soir des patients qui n'ont pas été opérés. Pour des bonnes raisons, là. Mais je trouve ça un peu... Je m'y attends, là, tu sais. Mais je trouve ça un peu ordinaire. Quelque chose qui marche, on va le scraper. Je dis pas qu'il faut tout privatiser. Mais si la conclusion, c'est qu'on est plus efficace puis qu'on a opéré plus de monde, il me semble qu'on devrait être un peu satisfait de ça. Et ça n'enlève rien au réseau public. Et je vous le dis, convaincu de ça, demain matin, vous dites « OK, on ne fait plus ça ». Conséquence, il va y avoir moins de patients opérés. Il n'y aura pas plus de monde, il n'y aura pas plus d'infirmières. Tant et aussi longtemps que tu n'auras pas augmenté la qualité du milieu de vie dans un hôpital. Et au lieu de dire... Tu sais, est-ce qu'on est en train de créer un monstre? Ça, c'est une réflexion corporatiste bien solide. Peut-être que sur la masse salariale des médecins, on peut voir comment on peut attirer puis comment on peut garder des infirmières sur les blocs opératoires. Puis il n'y a pas juste une question d'argent, il y a une question aussi de passion dans le travail. Mais, vous savez, les lobbies, ça défend bien sûr leurs intérêts. Tu sais, on n'est pas en train de vider les hôpitaux, là. On n'est pas dans ça pantoute. Mais on comprend que dans la catégorie « faisons peur au monde », ça peut effectivement peut-être avoir un certain écho. On va aller retrouver Marc, les points chauds. On va parler environnement ce matin parce que hier, une étude démontre que les sables bitumineux de l'Alberta polluent davantage que ce qu'on croyait. Et là, il faut faire attention, c'est pas l'essence que vous utilisez là, qui est comptabilisée, mais plutôt, on a fait des lectures aériennes au-dessus des sites d'exploitation. Et donc, on s'aperçoit que les émanations polluantes sont 30 % plus élevés que ce qu'on pensait, ou en tout cas les versions qu'on avait de l'industrie. Et là, c'est encore le débat qui revient. On le sait, c'est pas une nouveauté d'apprendre que les sables bitumineux, c'est un produit qui cause des dommages importants à l'environnement. Et on sait aussi que les gens vont continuer à consommer du pétrole. Et on sait aussi que majoritairement, le pétrole que nous consommons au Québec, là, nous arrive de l'Alberta. Alors, là, une fois qu'on a dit ça, le constat est encore plus urgent de commencer. Et Hydro-Québec s'inscrit dans cette démarche-là, avec ce plan de vente d'électricité, à une vision un peu plus large de ce qu'on appelle les changements climatiques et nos changements de comportement, je pense. Parce que le pétrole, on va l'acheter quelque part. Puis le pétrole va continuer d'être une source de pollution, autant au niveau de la production que de l'utilisation dans les transports. Mais c'est drôle, c'est qu'on n'a pas de vision très, très globale au Québec de la façon de faire. Et je regardais cette jeune militante hier qui reprochait finalement aux adultes d'avoir gâché la planète. Mettons qu'elle met beaucoup d'emphase, beaucoup d'énergie, mais il y a une certaine réalité. Et quand vous parlez à des plus jeunes, vous allez avoir ce constat-là. Le reproche qui est fait à la génération, à ma génération, à la génération des parents, c'est de ne pas avoir allumé puis pas d'avoir trouvé des solutions durables à ces problèmes-là. Ce niveau d'inquiétude des jeunes, il est réel. Puis on le voit dans leur comportement politique, dans leur comportement comme citoyens, citoyennes. Et toutes ces nouvelles-là, on prend ça comme des blocs, mais on oublie d'avoir peut-être cette vision un peu plus large. Donc, vous allez retrouver ces nouvelles ce matin dans Le Devoir, entre autres, et ailleurs aussi. Bon, on va tomber dans un peu de justice ce matin. D'abord, le Globe and Mail nous apprend que le Parti libéral du Canada, comme tous les partis politiques, ont une banque de données qui permet, entre autres, de savoir qui sont les militants, qui sont les gens qui participent aux activités, qui sont les gens qui donnent, des gens qui sont étiquetés libéral. Puis là, tu as une banque de données. Puis ça, c'est parfait pour les élections. Là, c'est dans 6 mois, les élections en passant. Alors, le Globe and Mail nous dit que dans le processus de sélection des juges, le bureau du premier ministre utilisait la banque de données du parti. Là, tu as, mettons, ta liste de candidatures au poste de juge, puis là, tu scannes ta banque de données pour savoir, coudonc, es-tu libéral? Es-tu connecté à nous autres? C'est un ami du parti. Hey, là, avouez que c'est quand même quelque chose. Et ça s'est fait récemment. Et là, j'ai l'impression que dans la démission du scandale SNC-Lavalin, puis de la façon dont les décisions sont prises, les nominations de juges à la Cour suprême, on commence à avoir un éclairage additionnel sur le rôle du bureau du PM dans ces décisions. Puis ça m'amène à vous parler d'un jugement qui a été rendu par la Cour d'appel dans une affaire que je vais essayer de vous résumer, mais qui est très compliquée, qui est une histoire de fraude. C'est un groupe de fraudeurs qui a obtenu le top du crédit possible d'une institution financière. Puis là, ils ont transféré après ça dans d'autres institutions. Ils déclarent faillite. Ils sont donc insolvables. L'argent continue de circuler. Et donc, les parties qui perdaient dans cette histoire-là sont allées demander une saisie, en fait, de geler les actifs, de s'assurer que l'argent ne disparaissait pas. Et donc, le juge Casgrain, dans ce dossier-là, juge de première instance, a refusé d'accéder aux demandes de Desjardins. Et il a donc décidé de faire en sorte que l'argent ne soit pas protégé. La Cour d'appel vient de te le ramasser, mais à coup de pelle. Je ne suis pas juriste, là, mais quand on lit ça, c'est absolument dévastateur. Il s'appelle d'abord Kirkland Casgrain, le juge. Et ce qu'on dit en gros de lui, c'est qu'il n'a pas compris la cause, qui était une cause complexe, c'est vrai, avec beaucoup de joueurs, là, mais qu'il n'a rien saisi de l'affaire, qu'il n'a pas entendu les parties de façon correcte et que sa décision ne tient pas la route sur le plan juridique. Autrement dit, il s'est planté d'aplomb. Et c'est un juge qui avait été nommé, je pense, par M. Chrétien à l'époque. Tout est. Alors, vous lirez ça ce matin, vous allez trouver ça sur les sites de droit en question. Aussi, ce matin, dans le Journal de Montréal, des liens d'amitié qui unissent un ex-avocat de SNC-Lavalin et son supérieur, qui l'a promu patron des enquêtes à l'Autorité des marchés financiers, se trouvaient déjà sous la loupe de l'organisme de surveillance. Alors, on est dans la proximité. Il y a deux cas. Il y a celui-là ce matin, donc des gens qui enquêtent sur eux-mêmes, en gros. Et deux, tu as le ministre Fitzgibbon pour la nomination de Guy Leblanc comme PDG d'Investissement Québec. Alors, c'est la commissaire à l'éthique qui va enclencher une enquête, éthique et déontologie, pour savoir comment ça s'est passé, si les règles ont été suivies par M. Fitzgibbon, qui est un ami, là, c'est un partenaire d'affaires et c'est un ami également. Juste vous dire aussi quelques nouvelles rapides en terminant. Il y a le président des Philippines qui dit que si le Canada vient pas ramasser ses ordures acheminées à Manille sous des déclarations trompeuses, il va retourner les conteneurs de vidange au Canada. Alors, il dit que c'est une menace de guerre, finalement. Puis là, on sait que Duterte est quelqu'un qui, évidemment, utilise des grosses expressions. Mais quand même, les attentats au Sri Lanka, ce sont les plus meurtriers contre les chrétiens depuis 1970. Et quand vous regardez les chiffres dans le monde, les attentats sont évidemment nombreux, mais les musulmans restent les principales victimes des attentats quand on regarde. Et les chrétiens arrivent quand même loin derrière. Et je rappelle cette victoire à l'île du Prince-Édouard des conservateurs, gouvernement minoritaire, les libéraux ont pris toute une débarque et les Verts, donc, deviennent l'opposition. 6h24 minutes. Le pont Champlain.